Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft, hein, une asso qui s'est fondée à l'UTC il y a quelques années et qui s'est pour mission de sensibiliser et former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Cette émission, c'est le deuxième volet d'une émission qu'on a consacrée à une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Et pour ce volet, je suis toujours avec Stéphane. Salut Steph.
Bonjour Quentin.
Alors, petit résumé à la hache de ce dont on s'est parlé la semaine dernière. Stéphane, t'es prof à l'UTC, t'enseignes notamment une UV qui s'appelle WE01 dans le jargon UTC1, où on apprend à concevoir des sites web, avoir un recul un petit peu critique sur l'histoire du web et tout ça. Et ton examen final, exercice rédactionnel, eh bien, tu l'as fait passer à une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT, qui est sortie publiquement en fin 2022 sous forme d'un agent conversationnel à qui on pose des questions et qui nous répond. Et le gros plot twist, eh bien, c'est que ses réponses étaient vraiment plutôt pas mal. C'était même les meilleures réponses ex aequo avec un seul étudiant. Et donc, t'as corrigé en fait la copie de ChatGPT comme si c'était un étudiant ou une étudiante. Et ChatGPT a eu 20 sur 20. Donc, évidemment, ça t'a beaucoup questionné et t'es pas le seul. Pour terminer l'émission de la semaine dernière, essayer de démystifier un petit peu le principe de fonctionnement de ChatGPT et d'insister en particulier sur un point très important, c'est que ChatGPT n'a pas pour ambition de dire la vérité. Ça n'est pas, en tout cas, son but initial, du moins, c'est pas le but de son modèle sous-jacent qui s'appelle GPT-3, dont le but est au contraire de produire une suite crédible à un texte donné. Donc voilà, j'entre un début d'article de presse et ça va me produire un truc qui n'est qui n'a pas vocation à être vrai ou faux, mais qu'on aurait pu trouver sur Internet, puisque c'est un modèle qui a été entraîné avec des centaines de milliards de textes issus d'Internet et d'ailleurs. Donc, on avait rappelé que même si ChatGPT a été ajusté par des humains pour essayer de produire des vérités, et bah, en fait, son but initial n'est pas ça, et donc il faut un petit peu se méfier aussi de cet aspect-là. Dans cette émission, on va se demander, vu qu'on était parti sur le fil rouge des examens de ton cours, Stéphane, qu'est-ce que ça pourrait bien avoir comme implication dans le milieu de l'enseignement ? On sait qu'il y aura des implications ailleurs, mais on peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, on va commencer par là, parce qu'effectivement, donc l'expérience est très très récente. Hein, on parle de quelque chose qui s'est terminé. Enfin, cette correction, c'était la semaine dernière, hein, donc là, ça date de quelques jours. J'ai immédiatement partagé ça avec plusieurs collègues. D'abord, encore une fois, parce que c'était suffisamment étonnant pour qu'on ait envie d'en parler. Et puis aussi parce qu'on est là toutes et tous concernés à court terme. Et il y a eu quelques réponses, effectivement, alors de la part de collègues, mais surtout on a vu pas mal en ligne ou dans la presse de choses de oui, mais il réfléchit pas vraiment. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a plein de données, donc ceci, cela, etc. Donc tout ce qu'on veut, on va peut-être en parler un tout petit peu sur la suite, mais je voulais d'abord revenir sur, ok, quel que soit le fait qu'il soit vraiment ou pas vraiment intelligent, qu'on sache ce que ça veut dire, que ce soit normal, attendu ou pas, pour moi, là, il se passe quand même quelque chose d'extrêmement perturbant pour notre métier d'enseignant. Alors, on pourrait le prendre sous plein d'aspects. On va voir d'ailleurs un petit peu au cours de la conversation. Il y a peut-être des choses qui vont nous venir, Quentin. Mais je me suis basé notamment sur un article du New York Times repéré par mon ami, par mon copain Charlie. Je lui fais un petit signe au passage, qui s'appelle donc Alarm by AI Chatbots. Balaye un petit peu un certain nombre de questions qui se posent à l'université. Il y avait un tout petit peu d'avance visiblement aux États-Unis. On fait passer des examens et rencontré à peu près le même sujet un tout petit peu avant. Donc on va prendre les thèmes un peu un par un. Donc ce qui sert de point d'entrée dans cet article du New York Times, donc c'est donc les propos rapportés par Anthony Oman, qui est donc un prof de philosophie à l'université du Michigan Nord. corps, et qui en gros, eh bien, voilà, fait à peu près le même constat que moi, c'est-à-dire qu'il fait corriger, lui du coup, il y a un élève qui a essayé de l'avoir, c'était un petit peu avant, hein, donc il avait moins anticipé, et en gros, il corrige à un moment, il lit ce qu'il pense être, eh bien, the best paper in the class, donc le meilleur rendu de sa classe. Alors, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est tellement le meilleur rendu que il est un petit peu alerté. Il se pose la question. Du coup, je peux ordonner exactement, mais les paragraphes sont impeccables, les exemples conviennent parfaitement et les arguments sont rigoureux. Donc, encore une fois, ce qu'on avait rapporté la semaine dernière, hein, ce dont je peux témoigner aussi, moi, j'avais exactement ça. Et même si je reviens sur le clean paragraphs, hein, pour moi, sachant que quand c'est un exercice qui est fait à la maison, il y a effectivement de nombreux étudiants qui sont capables de produire un texte de très bonne qualité, mais en général, en temps limité pendant les examens, il aurait impossible de qu'il n'y ait pas un certain nombre de fautes d'orthographe, et puis même des petites fautes de tournure, etc., avec le stress et le temps. Et là, effectivement, j'avais quelque chose de très très bon d'un point de vue français, pas parfait, mais très très bon. Encore une fois, on l'avait vu hein, la semaine dernière, mais les exemples qui collent parfaitement, pas de hors-sujet, une argumentation super rigoureuse. Bref.
Ouais, donc c'était un peu trop louche, quoi.
Donc c'était effectivement un peu trop louche. Là, ce prof, hein, dans l'article, effectivement, il attrape l'étudiant, hein, il lui demande, l'étudiant avoue. Bon, voilà, je sais pas, c'est pas ce qui s'est passé à la suite. À la limite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir que d'emblée, ça rentre dans le contexte de l'éducation. Alors moi, je l'avais entre guillemets anticipé. Lui, le pauvre, il a dû passer 15 jours avant, à 15 jours près, je l'aurais pas anticipé non plus. Il y a peut-être déjà d'autres profs qui se sont fait avoir et qui l'ont pas su. Bref, en tout cas, ça nous bouscule. La question de qu'est-ce qu'on va faire maintenant, donc c'est un peu exploré dans cet article. Je propose qu'on prenne un petit peu les choses les unes à la suite des autres. On voit un peu ce que ça donne. Alors par exemple, une première approche, hein, c'est des profs qui disent ok, on va changer les modes d'évaluation. Donc par exemple, on va arrêter on va limiter les travaux faits à domicile. On va limiter tout ce qui est fait un petit peu en dehors avec des ordinateurs, etc. Alors, ce qui est pas évident, c'est qu'en gros, c'est à peu près toutes les méthodes qui sont. Déjà, c'était un petit peu dans la logique, on va dire, pédagogique, d'aller un peu dans ce sens-là. Puis avec la pandémie, ça s'est énormément réparti. Donc le travail à la maison, travaux de groupe, travaux sur machine, etc. Et donc là, il y aurait une volonté de retour en arrière pour éviter ça. Et donc, qui consisterait à dire, on va au contraire demander des travaux uniquement écrits à la main. Comment je serais malheureux si je devais faire ça aujourd'hui avec un stylo au bout de trois lignes, je suis mort. On va demander éventuellement de faire effectivement que des choses en classe, donc sur papier ou alors avec contrôle de l'ordinateur, etc. De l'oral beaucoup. Hein. Il y a un collègue à moi effectivement qui m'a dit, on va leur faire passer des oraux dans ce cas-là. Alors tout ça, pourquoi pas, évidemment, mais ce qui peut nous interroger encore une fois un peu, c'est prendre des décisions de réorganisation comme ça des examens, juste entre guillemets parce qu'on a la pression d'une technologie qui peut servir à tricher, ça doit nous interroger, parce que si on faisait autrement avant, si on faisait écrire les gens sur un ordinateur, si on faisait travailler les gens à la maison, si on les faisait travailler en groupe, si on leur donnait le temps, eh bien il y a aussi des raisons, on n'a pas fait ça, on a fait ça pour des raisons pédagogiques, c'est que effectivement taper sur un clavier en 2023, utiliser un correcteur orthographique, tout ça c'est assez logique, c'est assez normal. Donc du coup, il y a plein de questions qui se posent. Mais en tout cas, le premier point, c'est ça, c'est changer nos méthodes d'évaluation rapport à ça. À mon avis, c'est pas si simple. Même si, évidemment, hein, j'ai déjà pris la décision que au semestre prochain, l'examen aurait pas lieu dans les mêmes conditions. Hein. On en a discuté, Quentin, ensemble, puisque tu as enseigné avec moi ce semestre. Et donc, on a effectivement pris un certain nombre de décisions pour déjà changer un certain nombre de choses dès le semestre prochain.
Ouais, parce que un truc qui pose question aussi, je sais pas si tu comptes en parler plus tard, mais c'est le travail supplémentaire que ça demanderait aux profs si jamais il fallait vérifier absolument tout le monde, tout avoir sur papier. Enfin, c'est pas la même limonade non plus, quoi. C'est un peu le chat et la souris.
Ouais, ouais, carrément, on va. Bah écoute, on va en parler maintenant. Hein. C'est chat et la souris. Moi, j'ai appelé ça la course à l'armement. On pourrait parler aussi de hausse de la surveillance. C'est un mot qu'on connaît bien ici. Mais en gros, voilà. Alors, je vous cite quelques idées. Hein, puis on va en discuter un peu avec Quentin. Mais sentez-vous libre d'en discuter chez vous, parce que justement, pour moi, l'enjeu peut-être, c'est aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai débat un peu démocratique et de se poser des questions autour de tout ça, quoi. Bon, entre les profs, mais pas que. Mais par exemple, demander aux étudiants de commencer à écrire en classe avant de finir chez eux, d'utiliser des navigateurs qui restreignent l'activité. Donc c'est pareil, hein, c'est des mythes un petit peu, enfin des choses que l'on poursuit tout le temps. On aimerait bien qu'on puisse utiliser le web, mais que pour faire ce qui est prévu et pas pour les autres trucs. Interdire, faire en sorte que le Wi-Fi coupe l'accès à ChatGPT. Alors évidemment à ChatGPT actuel, mais du coup au prochain, celui d'après. Un ChatGPT embarqué, enfin du coup je sais pas, il y a tellement de ça va prendre tellement de formes. Et puis couper le wifi c'est bien, mais il paraît qu'il y a d'autres moyens d'accéder au réseau avec un téléphone. Enfin, comme tu le sais, moi j'ai un vieux téléphone, mais j'ai entendu parler de ça. Voilà, donc c'est un premier aspect. Alors il y a un autre truc qui est un autre truc assez intéressant, c'est des professeurs qui imaginent de produire des questions trop intelligentes pour les chatbots, c'est-à-dire qu'ils feront en sorte que les étudiants uniquement arriveraient à y répondre. Alors là, moi ça me paraît aussi en soi c'est pas inintéressant, mais soit ça veut dire qu'avant on posait des questions un peu connes quand même, et du coup faut se demander un peu pourquoi, ou alors faut effectivement bien vérifier que les étudiants vont être capables d'y répondre, puisque encore une fois, hein, sur mon expérience, on a bien précisé que ChatGPT avait eu 20 sur 20, qu'il y avait un autre étudiant qui avait eu 20 sur 20, mais il y en a surtout 39 autres qui n'ont pas eu 20 sur 20, quoi. Donc, et là-dedans effectivement, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont en difficulté avec cet exercice rédactionnel, donc comment ça se passe pour eux si on monte le niveau par rapport à ça, quoi. Du coup, il y en a peut-être qu'un qui aurait validé W1 cette année. Tu l'as dit, il y a le travail de vérification par les profs. Hein, je rappelle aussi l'anecdote de la semaine dernière. Les références que m'avait produit ChatGPT, mais si je lui avais demandé des citations, il m'en aurait donné. Eh bien, elles étaient à la fois crédibles et totalement fausses, totalement inventées. Moi, effectivement, quand j'ai un devoir d'étudiant qui produit des références, je ne vais pas aller revérifier chacune des références, relire chacune des citations. Alors, dans ce cas-là, je l'aurais probablement fait parce que il y avait un auteur que je connaissais, mais pas le texte. Ça m'étonnait qu'il y avait des auteurs que je connaissais pas. Bon, voilà, donc je l'aurais probablement fait, mais encore une fois, faut que je me projette sur 40 copies de ce type-là, où il y en a qui corrigent beaucoup plus de 40 copies. Avant, j'avais une UV où j'en avais 200. Voilà, du coup, ça pose beaucoup de questions en termes de temps de travail.
Bon, en tout cas, moi, j'ai quand même ma petite idée sur l'efficacité de ce genre de méthode. Ça me fait penser dans tous les jeux du chat et de la souris, comme les antivirus, où on essaie de détecter du code malicieux, ça fait 40 ans que, en fait, les uns s'adaptent par rapport aux autres au fur et à mesure. Et les techniques de blocage, c'est un peu comme quand on essaie de bloquer des sites de téléchargement illégal. Finalement, les gens qui s'y connaissent le mieux et qui ont envie de filouter, c'est les plus favorisés. Est-ce que c'est souhaitable ou non? Est-ce que ça suffit à dissuader? Je sais pas, mais en tout cas, ça me paraît être beaucoup d'efforts, finalement. Je sais que tu avais des entreprises spécialisées, c'est sûr qu'ils vont développer des trucs payants, des systèmes anti-triche un peu sophistiqués et tout, qui vont aussi avoir leur biais. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas de bonne solution, mais celle-là, je mettrai pas des millions dedans, quoi.
En tout cas, encore une fois, ce sera un peu peut-être le leitmotiv de notre émission, mais c'est à date là aujourd'hui. Moi, il me semble hyper prématuré pour de choisir n'importe quoi comme solution définitive, quoi. Dans les autres idées, hein, je mentionne vite fait, mais il y a effectivement le fait que ChatGPT proposera un watermarking, c'est-à-dire il fera en sorte que les énoncés qui sont produits de telle façon qu'un algorithme que eux-mêmes fourniraient une sorte de clé, quoi. Permettrait de les détecter automatiquement. Alors, c'est pas du tout ça qu'ils vont faire, mais un truc débile, c'est qu'ils pourraient dire on met tant de fois la lettre E, ou on met tant de fois le tel mot, ou on place tout le temps tel type de choses, etc. Et à partir de ça, on pourrait le détecter.
Ouais,
donc pareil.
Écoute, t'as des gens qui vont te faire des anti.
C'est ça.
On
le voit bien venir. Alors il y a aussi GPT-0, donc un programme qui aujourd'hui nous promet de détecter les textes générés par IA. Donc en gros, on va avoir des IA qui détectent les IA. Alors non seulement d'une course à l'armement, mais c'est même pas sûr qu'on y participe, quoi. Donc ça, voilà, c'est un peu l'aspect essayer de changer en quelque sorte la façon d'évaluer. Il y a certains profs qui vont plus loin, hein, certains qui se disent, en fait, et encore une fois, ils ont pas tort. Là, du coup, pour moi, a priori, personne n'a tort pour le moment, mais personne n'a raison non plus. Mais c'est-à-dire, du coup, peut-être même changer ce qu'on apprend. Alors, on pourrait faire le même argument que j'ai fait tout à l'heure, mais si on change, c'est bien parce que, enfin, pourquoi on ne faisait pas différemment avant ? Bah, là, il y a quand même aussi un bout de réponse, c'est que finalement, si on a effectivement des programmes qui sont capables de produire des textes de très bonne qualité, qui répondent correctement, etc., est-ce que la compétence même de produire ce genre de texte, elle a encore du sens ? C'était des questions qu'on a posées avant. Est-ce que, effectivement, être très bon en orthographe ou en calcul mental, quand on a un ordinateur, c'est encore nécessaire ? Est-ce que avoir beaucoup de connaissances quand on a accès à Wikipédia ?
Même pour les informaticiens, au final, connaître la documentation parfaitement de tel ou tel langage, quand par ailleurs on a des trucs de suggestion. Et encore, bon, ça on se demandera plus tard, mais ça pose question sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Mais ça, c'est peut-être une question de nature différente, mais quand l'écriture est massivement arrivée, bah, on a beaucoup moins valué le fait d'avoir tout dans la tête, et donc on a nécessairement changé nos méthodes de production de connaissances. Là, est-ce que c'est la même chose en plus moderne ? Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, il y a des choses en commun, quoi. C'est sûr. Donc, c'est peut-être pas absurde de se demander est-ce qu'on change ce qu'on apprend, de se poser au moins la question.
C'est ça. Donc, c'est certain que se poser la question, à mon avis, c'est nécessaire. Alors là, dans les deux... Alors, encore une fois, hein, c'est nécessaire, mais par contre, je crois absolument pas qu'on va être capable de produire la réponse en une semaine, en un mois, ou même probablement en un an ou deux. Donc là, on a quand même une période problématique pendant laquelle il va falloir réfléchir. Il y a donc monsieur Oman dont on a parlé qui se dit du coup je vais utiliser ChatGPT pour faire critiquer les étudiants sur les réponses du chatbot. Je rappelle, c'était mon point de départ. Moi, c'est que je voulais au départ que les étudiants critiquent les réponses, mais je les ai trouvées trop qualitatives pour ça. Ça veut pas dire qu'il va pas y arriver, hein. Ça veut dire qu'encore une fois nos intuitions, voilà, c'est un peu ça que je veux dire, c'est que nos intuitions à mon avis, elles sont nous en tant que profs, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont être inopérantes, quoi. Il y a Antonio Cassilli qui propose également, comme un peu ce qu'on a fait avec Google ou Wikipédia, un petit peu la même chose, quoi, d'essayer de voir comment on peut utiliser ChatGPT dans notre enseignement. Voilà un peu, bon, tout ça, effectivement, pour moi, encore une fois, première petite conclusion, c'est que, encore une fois, je pense que nos intuitions et la temporalité fait qu'il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose dans le domaine de l'enseignement. Comme tu l'as dit, ça se pose certainement dans plein d'autres domaines, mais chacun son problème. Il y a peut-être un autre petit point, je ne sais pas si on en parle maintenant, je peux peut-être le mentionner maintenant, on y reviendra après, qui m'interroge. On va parler du test de Turing après, donc on y reviendra, mais c'est, je vais appeler ça l'automatisation et l'externalisation du mensonge ou de la triche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire un faux rapport de stage, un faux article scientifique pour un chercheur, une fausse rédac à la maison, etc. Tout ça, c'est évidemment possible, tout ça, ça a existé, mais ça demande quand même, pour l'être humain qui le fait, un certain effort, d'abord, je veux dire, même faire un faux rapport de stage, ça demande à écrire un faux rapport de stage, donc ça demande un effort, ça demande du travail. Et ça demande, en quelque sorte, une attitude prolongée de triche, c'est-à-dire pendant longtemps, plusieurs heures, faut être en train de tricher, il faut supporter un peu le poids moral de ça. Donc ça demande, encore une fois, de l'énergie, voilà, c'est moralement assez impactant si vous faites exprès de faire un rapport de stage, d'imaginer les noms de vos suiveurs, j'en sais rien, moi. Tout ça, ça vous demande quand même de l'énergie. Et donc je pense que c'est pas si facile à faire, j'ai jamais fait ce type d'exercice, mais je pense que c'est difficile à faire, et finalement, souvent, c'est plus facile d'avoir une moins bonne note ou d'avoir fait les trucs pour de vrai, évidemment. Mais du coup, bon, voilà, je dis pas qu'il y a pas des gens qui vont faire à un moment ça une ou deux fois dans leur vie, etc. Mais je pense que c'est pas simple. En revanche, si on fait tricher une IA pour nous, ça demande pas d'effort. On va directement lui déléguer le travail. Moralement, il y a très très peu d'investissement. Ok, on a fait un petit acte illégal ou immoral à un moment, mais il a été très très court dans le temps. On a produit un truc, appuyé sur un bouton, c'est parti, c'est revenu. Ok, ensuite on baisse un peu les yeux quand on demande au prof, mais on parle de quelques secondes ou minutes d'attitude immorale à assumer. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Voire même, on pourrait aller plus loin et il pourrait presque y avoir un truc comme, en vrai, c'est pas vraiment moi qui ai triché. J'ai demandé à une IA de tricher pour moi, elle m'a donné la réponse. Alors ouais, d'accord, mais bon, il y a un petit côté comme ça. On pourrait même aller à ne pas lire ce qui a été écrit. Donc, on se retrouverait dans une situation quand même assez, assez étrange. Et ça, pour moi, c'est peut-être un point encore plus important, c'est-à-dire que, peut-être d'ailleurs que tu vas nous en parler, on va attaquer la question de l'automatisation, mais si on automatise la production d'énoncés véridiques, à mon avis, il peut y avoir une tendance effectivement à l'utiliser pour tricher beaucoup plus grande, parce que justement le poids de la triche serait bien inférieur, et ça peut peut-être assez fortement modifier la relation qu'on a vis-à-vis de ces énoncés, la relation de confiance d'une façon générale. Enfin voilà, j'anticipe un peu, hein, mais.
Ouais, je sais pas si on reviendra. En vrai, on peut en toucher deux mots là. Je sais pas si on reviendra précisément là-dessus. On pourra, mais je pense que je sais pas, peut-être en philosophie de la connaissance où il y a plein de domaines qui vont sérieusement s'intéresser à ça, parce que avant, pour faire de la propagande ou des choses comme ça, enfin pareil, il fallait payer des gens, c'était quand même assez long, c'était assez coûteux. Je pense que quand le coût d'accès à quelque chose devient extrêmement faible ou extrêmement marginal, on l'a vu avec les smartphones, tu vois, finalement, ils sont dans notre poche, c'est un coût d'accès nul pour aller dessus, donc on s'en sert tout le temps, donc ça produit plein de choses différentes sur notre expérience au monde, utiliser les GPS, tout ça. Et bah là, le fait de... Enfin, en fait, je pense qu'il y avait aussi un truc de... comment dire ? Quand tu lisais quelque chose de très long, tu te disais, non mais ça n'a pas de raison d'être faux. Il n'y a pas de raison que quelqu'un ait passé des heures et des heures à écrire un truc qui soit faux. Donc, tu avais une sorte de confiance a priori du fait que ce ne soit pas possible techniquement. Si là, ça devient aussi indifférent, aussi simple de produire un texte très long, eh ben, ça te met tout de suite dans une posture de méfiance et je pense même de confusion. Ou est-ce que peut-être tu vas même lire moins attentivement parce que tu te dis, bah, en fait, ça se trouve, je perds mon temps. Je passe 3 heures à corriger un truc qui a été écrit en une seconde. Je pense que ça fait vriller. En tout cas, moi, ça me fait un peu vriller, tu vois.
Musique ?
Allez,
pour débriller.
C'est parti. On va écouter Joe Budd, le titre Joe Budd, donc de Really Great. C'est en Creative Commons by NC et on l'a déniché comme les deux morceaux de cette émission sur l'incroyable site ziclibre.bib.fr.
Et le titre de l'album, c'est So Far No Good.
C'est parfait. C'est parti. I don't wanna be your jailbird, I don't wanna be your bottom slut, I don't wanna look in the mirror, always feel like I'm not good enough, I don't really know what I can do, and I'm always thinking about you, in some imaginary world where things work out. We'll Rebonjour à toutes et à tous, vous écoutez toujours La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft, et on continue de parler de ChatGPT, l'agent conversationnel qui défraie un peu la chronique. Ça, je parle comme un éditorialiste.
Le chat qui murmurait à l'oreille des humains, Quentin.
Et donc, pour cette seconde et dernière partie d'émission, moi, je voulais commencer par aborder quelques points. En fait, j'ai lu un bouquin conseillé par un prof de l'UTC qui s'appelle « Remplacer l'humain, critique de l'automatisation de la société ». Et donc, c'est de Nicolas Carr. Donc bon, la critique de l'automatisation de la société, le point de vue est quand même assez clair. Et en fait, à travers ce bouquin, est donné pas mal d'exemples des effets qu'a pu produire certains types d'automatisation par le passé. Et je trouve que c'est intéressant de regarder ces exemples au regard de comment on pourrait utiliser ChatGPT, au moins pour questionner qu'est-ce que ça pourrait produire sur nous, humains, sur l'organisation de la société, sans dire que tout est acheté, que tout est mal, qu'il n'y a aucun point positif, mais simplement c'est des questions qui, à mon sens, ne sont pas assez abordées dans le débat public, et surtout sur lesquelles le débat public n'a pas d'influence, puisque entreprise privée, ceci et cela. Donc bon, j'en viens à mes quelques exemples. On a remarqué, donc là c'était plus des expériences autour de l'apprentissage, que l'automatisation, le fait de ne pas mettre des mains dans le cambouis, empêchait un peu de fixer de la connaissance. En gros, c'est un truc qu'on a appelé l'effet de production. On fixe la connaissance profondément dans le cerveau en étant acteur. Là, à un moment, si effectivement on fait générer des textes, qu'on les relit vite fait, bon bah voilà, on n'arrive pas à bien retenir ce qui est dedans, ça paraît pas invraisemblable. Au fond, on pourrait dire la même chose entre lire versus écrire. Des trucs, voilà. Un exemple pour le coup qui est, je trouve, assez intéressant, c'est le fait que l'automatisation a tendance à détruire des savoir-faire qu'on avait pourtant incorporés. Un exemple qui est pris assez longuement dans le bouquin, c'est le pilotage d'avion, où auparavant, les pilotes d'avion qui conduisaient en mode manuel, alors il y avait aussi plus d'accidents puisque les instruments de contrôle étaient moins sophistiqués, mais il fallait une attention assez soutenue, une connaissance fine de l'environnement, des signaux qui indique qu'il y a un problème, etc. Aujourd'hui, un pilote d'avion pilote extrêmement peu, en fait, hein, à la limite à l'atterrissage et au décollage, et on a montré que, en tout cas, la majorité des accidents qui ont eu lieu ces 15 dernières années étaient dus au fait que les pilotes n'avaient pas su reprendre le contrôle. Quand il y avait eu un problème, ils tiraient super fort le manche comme s'ils étaient très débutants, etc. Donc, en gros, quand on ne s'entraîne pas, on ne peut pas créer des automatismes ou garder ces automatismes. Donc, pose la question de la dépendance, comme d'habitude. C'est aussi un peu délétère pour la capacité à s'adapter à des situations nouvelles. On le voit bien avec le GPS. Je pense que tous les gens qui utilisent des GPS se rendent bien compte que c'est très difficile à faire dans un nouveau lieu si on n'a pas de GPS, comment on crée une carte mentale, etc. Un exemple que j'avais trouvé intéressant, c'est même sur la question de la performance. On avait fait passer à des groupes, c'est un jeu qui s'appelle alors Missionnaire et Cannibale. En gros, c'est une petite énigme où il faut faire traverser des missionnaires et des cannibales dans une de l'autre côté d'une rivière, mais si jamais il n'y a que des cannibales tout seuls, ils se bouffent entre eux, enfin je ne sais pas quoi. Donc il y a des petites astuces à faire pour réussir à faire traverser tout ce beau monde. Il y a un groupe donc de joueurs et de joueuses qui fait un peu papier-crayon et qui essaie de trouver des solutions. Et un groupe qui est assisté par un programme d'aide à la décision qui va leur dire « Ah là, ces mouvements-là, ils sont valides, tu peux faire cela », enfin faire des petites suggestions. Et en fait, on se rend compte qu'au début, le groupe qui avait le programme d'aide à la décision, il performe tout, il nique tout le monde. Mais au fur et à mesure que ça avance, eh ben, en fait, il performe moins bien que l'autre groupe qui a réussi à fixer, à comprendre la logique un peu... forte, fondamentale derrière le truc. Donc, bon, là, pareil, je pense que c'est assez attendu que ça se passe comme ça, mais on a beaucoup d'études qui montrent ça, et puis, de manière générale, une compréhension aussi plus faible des domaines sur lesquels on est assisté. Pareil, c'est logique, si on a l'impression d'avoir toujours une bonne réponse et qu'on n'a pas besoin de creuser, on ne creuse pas énormément. Et donc, ce qui m'amène à mon prochain point, c'est que ça a tendance à produire un excès de confiance dans les systèmes automatisés. qui sont presque proportionnelles au perfectionnement du système. Alors un exemple plutôt médical cette fois-ci, c'est que beaucoup de médecins, hôpitaux, alors peut-être pas en France, mais en tout cas aux États-Unis, utilisent des logiciels qui vont analyser automatiquement les examens médicaux, par exemple les radios, pour essayer de détecter, ou les IRM ou les scanners, pour essayer de détecter des tumeurs, des zones qui ne sont pas tout à fait normales. Et bah en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de tumeurs qui sont ratées parce qu'elles ne sont pas entourées par le truc. Parce que d'habitude, le truc est tellement fiable pour les détecter qu'on ne va pas prendre la peine de revérifier derrière. On se dit, on perd du temps, on a plein de cas où il n'y avait rien. Enfin voilà. Donc, excès de confiance. Un bus scolaire dont le toit a été arraché parce qu'il passait sous un pont qui était beaucoup trop haut. Et en fait, bah, le GPS a dit de passer par là, donc on ne vérifie pas la hauteur. Un bateau de croisière qui s'est échoué, en gros les instruments de navigation ils déconnaient, le bateau il s'était barré de 30 km de dérive, c'est quand même pas mal 30 km. Et en fait tout l'équipage avait vu des signes problématiques en mode « Ah je vois pas les balises que je suis censé voir, mais bon en vrai c'est moi qui ai dû me foirer ». Donc en fait les gens commencent à ne plus se faire confiance et à plus faire confiance au système d'aide. Et donc bah, là à partir du moment où on a absolument confiance dans un système perfectionné mais par ailleurs faillible, si tout le monde a confiance dedans, ça peut produire des effets, des tailles d'effets un peu compliquées. Et un corollaire de ça, c'est que ça peut aussi pousser à ignorer des solutions que le système n'est pas capable de produire en se disant on a tellement confiance en lui, il est tellement fort que bah, on n'a plus vraiment envie d'essayer des nouvelles pistes qui vont peut-être se révéler infructueuses. On peut par exemple penser à justement des médecins aussi américains qui sont vachement assistés par des outils d'aide à la décision qui vont dire « Ah, t'as pensé à faire tel examen, tu pourrais donner tel traitement par rapport à ce symptôme-là et tout ». Ça dissuade un petit peu d'individuer le traitement et de tenter un truc qui n'a pas été... parce que c'est... Enfin, comment dire, c'est jamais le même traitement pour tout le monde et tous les symptômes, quoi.
Ouais, ça m'interpelle ce que tu dis, parce que un des arguments que les qui est produit dans le contexte ChatGPT, c'est de dire ouais ok il s'est imité et tout, mais et c'est vrai que l'humain dans la majorité de nos actions, bah, finalement on fait des choses assez simples d'imitation etc. Mais il restera les 1% de créativité humaine qui seront inaccessibles etc. Alors je discute pas du fond de ça, c'est un sujet à part entière, mais en revanche ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce que les systèmes techniques font aux humains, c'est des choses dont on a déjà parlé. Mais en gros, indépendamment de savoir si ce 1% existe ou pas, ce que tu es en train de mettre en évidence, c'est que ça pourrait l'affaiblir ou le faire disparaître. C'est-à-dire que le fait de plus être en situation de créativité parce qu'on a re-automatisé encore des espaces, là en l'occurrence cognitifs, dans nos pratiques quotidiennes, eh bien, pourrait faire réduire notre part de créativité ou d'imagination.
Je suis carrément d'accord avec ta manière de formuler les choses. Et je crois que pire encore, ça peut produire même du découragement en fait, chez les humains, artistes ou créateurs de tous bords. C'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais aller me faire chier à passer des heures et des heures à faire un truc, alors qu'on est capable d'Ali qui génère des images, de pondre des trucs quand même super créatifs, en tout cas qui ont l'air super créatifs. Et donc, cet effet de découragement peut aussi réduire, de fait, la part de créativité.
Dali, on n'en a pas parlé, Quentin.
Ouais, effectivement.
Peut-être juste en dire un tout petit mot, hein, mais donc c'est fait par la même société,
ouais,
OpenAI.
Tout à fait.
Et donc c'est un programme d'intelligence artificielle qui produit des images, donc comme ChatGPT produit des images, des textes, pardon, vraisemblables qui ressemblent à des textes humains. Mais là, de la même façon, ça produit des images qui auraient pu être des tableaux, par exemple, ou des créations artistiques faites par des humains.
Et donc bah, je vais terminer par deux points, je pense. Ça résume un peu tout le reste, c'est le fait que l'automatisation est assez complexe, c'est assez subtil dans la mesure où ça peut nous enlever de la charge de travail répétitive, où on aimerait faire autre chose, mais ce faisant, ça nous confisque une part de notre autonomie. Là, je cite un ingénieur de chez Google qui parlait des outils qui aident à programmer, donc qui font des petits bouts de code pour nous, qui réagencent le code d'une manière qui va bien. Et il disait « J'en arrive parfois à me sentir comme un simple opérateur ». Les outils, nous encouragent non pas à bien penser la structure du code avant de l'écrire, mais simplement à faire un premier jet, puis à attendre qu'ils nous disent ce qui ne va pas et comment améliorer les choses. Et donc, effectivement, cette sensation de n'être plus qu'un simple opérateur et pas vraiment un créateur, c'est un truc qui s'est retrouvé tout au long de l'histoire de l'automatisation, des machines industrielles où finalement il n'y avait plus qu'à contrôler qu'elles faisaient bien leur travail, à aujourd'hui les outils qui nous disent comment écrire du code. Et donc...
Ouais, moi, quand même, pareil, un autre truc qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que, si tu veux, si à un moment, on nous vend l'automatisation de l'agriculture, voilà, parce qu'à un moment, il faut bien quand même dégager du temps pour faire autre chose. Si on nous vend l'automatisation de l'industrie, construire ces objets, on veut dégager du temps pour faire autre chose. Cette autre chose, ça ressemble quand même un peu à passer du temps, à discuter avec d'autres êtres humains, ou effectivement à être créatif artistiquement, à écrire des livres, dessiner, faire des dessins, des tableaux, faire de la musique, etc. Mais du coup, si on automatise cette partie-là, on peut se demander un petit peu pourquoi est-ce que, enfin, du coup, ce temps qu'on va libérer là, c'est-à-dire quand tu dis, ouais, il y a des choses un peu fastidieuses, bah, oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, alors je comprends qu'un examen de l'UTC ce soit fastidieux, mais c'est sa fonction même. Enfin, du coup, là, sa fonction, c'est pas d'être fastidieux, mais du coup, si on automatise toute cette partie-là, on va libérer ce temps pour faire quoi, du coup, enfin, alors ouais, si dormir, et puis je sais pas, mais bref, ça interroge quand même pas mal, quoi, de définir le fait de produire des énoncés. Ou comme étant quelque chose de fastidieux. Alors, tu as pris l'exemple du code informatique, bon, admettons, mais de produire des énoncés textuels comme étant un truc fastidieux, c'est quand même un peu bizarre, quoi.
Et je pense que tu tiens, moi je finirai là-dessus, un truc vraiment, vraiment fondamental, c'est que cette espèce de fantasme de se dire « je vais me libérer de toutes les tâches qui m'asservissent, qui sont pénibles, pour pouvoir me concentrer sur la vraie spécificité humaine, sur la réflexion, la créativité », en fait, quand on s'est rendu compte que la créativité et cette fameuse spécificité humaine se construit aussi à force de tâches répétitives et aussi en faisant les trucs qu'on veut déléguer à ChatGPT, bah en fait, on ne pourra plus y arriver, tout simplement. Parce qu'on n'aura pas créé d'automatisme, on n'aura pas créé de connaissances, on n'aura pas créé de savoir-faire. Donc au final, ce qu'on cherche à libérer comme temps pour faire un truc, bah on va le libérer pour, bah, je sais pas quoi, mon pote, mais pas ça, quoi.
Eh bien, écoutez, pour écouter de la musique.
Et ça tombe bien, puisque avant d'attaquer la dernière partie de l'émission, donc t'as un truc à rajouter, Steph ?
Non, juste ça fera plaisir à mon fils de savoir qu'il peut arrêter d'écrire et faire des rédacs et juste d'écouter de la musique.
On va écouter Water Can Kill You de Spide Kicks. C'est en Creative Commons by NCSA. Et c'est parti, on se retrouve juste après. Thank you.
On est dans La Voix est libre sur Graphite 94.9. Aujourd'hui, on fait une émission, le chat qui murmurait à l'oreille des humains. On parle de ChatGPT, c'est le deuxième volet d'une émission donc on consacre à cet agent conversationnel, une intelligence artificielle capable de produire automatiquement des textes vraisemblablement écrits par des humains, c'est-à-dire qui ressemblent à des textes écrits par des humains. Alors vraisemblablement, pour la conclusion de cette donc deuxième et dernière émission, eh bien, moi, je voulais revenir un petit peu sur le test de Turing. Alors, le test de Turing, hein, pour commencer, c'est quand j'étais petit et qu'on parlait d'intelligence artificielle, c'était le truc que les machines n'arriveraient pas à faire. Ça, c'était quand même... Alors, il y a eu un au début des années 50, donc je n'étais pas né, Quentin, encore. les gens, effectivement, pensaient que ça irait super vite, mais par contre, au début des années 80, donc j'étais né, ce qui se croyait à ce moment-là, c'était qu'on n'y arriverait pas. Alors, le test de Turing, je vais l'expliquer un petit peu, parce que je trouve vraiment que c'est... c'est super intéressant. Donc, ce test a été formalisé donc par Alan Turing. Et en fait, donc, à la base, ça s'inspire d'un jeu entre humains qui s'appelle The Imitation Game, qui est un jeu dans lequel un homme et une femme cherchent tous les deux à se faire passer pour une femme. Donc il y a trois personnes, un homme et une femme qui sont par exemple derrière un paravent. Alors évidemment, il faut qu'on puisse masquer la voix, donc voilà, il faut une petite technique pour masquer la voix. Et puis il y a une troisième personne qui doit deviner lequel est l'homme et lequel la femme. Donc pour ça, il va poser des questions. Alors, par exemple, il peut demander « Es-tu une femme ?» Et bien les deux vont répondre, ils doivent se faire passer pour une femme, donc les deux vont répondre oui. Ensuite, il va demander, je sais pas quoi, donc du coup, poser les questions qui vont bien. Je vais essayer de pas aller trop loin pour pas rentrer dans un truc trop sexiste sur l'émission. Mais voilà, on imagine bien le type de questions qu'ils vont poser. Est-ce que tu es marié avec un homme? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et à partir de là, eh bien, la personne qui pose la question doit deviner lequel est l'homme et lequel est la femme. Alan Turing imagine donc un test dans lequel il dit, si on prend le jeu de l'imitation et que la personne qui devine est un être humain d'un côté et que de l'autre côté on met une intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle est aussi performante que l'être humain pour deviner qui est la femme à chaque fois, eh bien, ça veut dire que, in fine, ce sera, elle va deviner, va être aussi performante qu'un humain. On peut aussi le formuler dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire si de l'autre côté, l'homme qui se fait passer pour la femme parvient aussi souvent l'intelligence artificielle qui se fait passer pour un homme, qui se fait passer pour une femme, parvient assez souvent à tromper la personne qui devine qu'un être humain homme qui se fait passer pour une femme arrive à tromper la personne qui devine, et bien de la même façon, il est capable d'aussi bien imiter. Et c'est ce deuxième cas qui m'intéresse le plus, puisqu'on voit bien que la façon dont Turing pose le problème, c'est qu'il dit, le test de Turing sera réussi par une intelligence artificielle, en quelque sorte, le jour où il saura mentir aussi bien qu'un être humain, alors qu'un homme, en l'occurrence. Alors l'aspect sexuel n'est pas totalement innocent, hein, puisque j'invite... Les gens qui ne connaissent pas son histoire à aller regarder le film The Imitation Game, un film de 2014 donc sur Alan Turing, ou à aller lire sa biographie sur Wikipédia. Mais du coup, on comprendra en particulier pourquoi Alan Turing est dans cette posture. Alors, sans trop rentrer dans son histoire, mais c'est un homosexuel dans l'Angleterre victorienne, et donc c'est quelqu'un qui effectivement doit se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc cette assimilation est assez intéressante parce que je termine mon détour ici, mais on voit que, aujourd'hui, ChatGPT, en quelque sorte, alors de fait, il n'a pas passé le test de Turing. Je crois pas qu'il y ait un programme spécifique qui a été construit pour. Mais là, du coup, moi, ça me paraît. Il y a 15 jours, je vous aurais dit c'est impossible. Mais du coup, maintenant, j'exagère un peu, mais on sentait depuis quelque temps qu'il se passait des choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, il paraît évident qu'on peut tout à fait faire un programme qui va tromper encore une fois un observateur aussi souvent qu'un être humain, peut-être même plus souvent. Et donc, on voit bien que, in fine, on définit cette équivalence d'intelligence par la tromperie. Alors, c'était déjà un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, je trouve que c'est assez assez interpellant comme évolution, quoi. Voilà, donc c'était un peu en forme de conclusion, hein, c'est-à-dire que donc le ChatGPT est en mesure, on va dire, de passer le test de Turing, et donc est en mesure, eh bien, de tromper des humains au moins aussi bien que d'autres êtres humains. Mais en faisant le lien avec ce que Quentin a dit juste avant, eh bien, du coup, c'est pas pareil, parce qu'on pourrait dire, ouais, bah du coup, tous les humains, ils font ça, donc il fait aussi bien que les autres, c'est pas très grave. Sauf que l'automatisation fait que, encore une fois, oui, un étudiant aurait pu tricher à mon examen en mettant en place tout un dispositif, en étant connecté à quelqu'un d'autre, qui ceci, etc., mais ça leur a demandé des efforts très importants, alors que là, à présent, ça se fait de façon automatique et sans aucun effort, ou presque, pour obtenir le résultat. Donc, ce changement de vitesse, de rapport effectivement à l'exercice, à mon avis, eh bien, il peut changer beaucoup de choses, il peut changer un peu tout, quoi.
Oui, c'est pour ça que, je sais pas pour toi, mais moi, finalement, la question de savoir si est-ce qu'on est enfin arrivé à une IA consciente, pas consciente, intelligente ou pas intelligente, c'est des questions qui sont intéressantes d'un point de vue philosophique, mais en fait, c'est pas les questions pratiques, à mon avis, qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que ça change, en fait, pour toi, prof, pour moi, citoyen, pour la vie démocratique, et surtout qui a la main sur les réponses, quoi. Qui a quoi comme société derrière. Pour moi, ça, c'est des questions vraiment pratiques qu'il faut absolument, dont le débat public doit s'emparer, quoi.
Ouais, carrément, voilà, c'était un peu, hein, on va pas tarder à s'arrêter, mais du coup, on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel les machines peuvent se faire passer pour des humains. On vit dans un monde dans lequel les machines peuvent produire des énoncés qui ressemblent à des énoncés produits par des humains de façon automatisée, à la vitesse et donc dans une quantité bien supérieure, avec une vitesse bien supérieure et encore une fois avec une certaine vraisemblance, mais pour revenir aussi sur la première émission, avec derrière des logiques algorithmiques, que ce soit des filtres, que ce soit poussé dans un sens, poussé dans un autre, les énoncés, bien tout ça en fait ça devient très très facile à automatiser. Donc tu nous avais expliqué que ChatGPT avait été plutôt entraîné à éviter des énoncés pas acceptables par la majorité, comme des énoncés climato-sceptiques ou négationnistes, ou voilà. Mais on pourrait tout à fait exactement faire le contraire. Donc ça veut dire que voilà, on peut produire des machines qui font ça. Et donc voilà, on vit dans un monde dans lequel une machine peut se faire passer pour un humain dans n'importe quelle conversation. Alors peut-être que demain on nous présentera ça comme une façon de gagner du temps quand on doit discuter avec des gens avec qui on n'a pas envie de discuter. Alors il restait quand même la solution de ne pas discuter avec eux dès le début, mais bon. Voilà, peut-être que des fois on est plus ou moins obligé. Voilà, donc du coup en conclusion, hein, c'est un peu ce que tu as dit, hein, on peut, je pense, on peut s'intéresser ou pas aujourd'hui à ce que ça fait en termes de rapport à, enfin pardon, plutôt en ce que ça dit en termes de ce qu'est l'intelligence, ce que c'est pas la conscience, etc. On peut s'intéresser à tout ça, mais en tout cas, même si on s'intéresse pas à ça, si on considère que c'est pas vraiment le problème, je pense là que on est en face d'une technologie qui de fait fait quelque chose aux humains. Alors toutes les technos font quelque chose aux humains, mais là on est quelque chose, je pense, qui peut faire profondément, qui peut changer des trucs pour de vrai, quoi. C'est d'autant plus vrai que, et on l'a vu, ça s'est amplifié avec le confinement, mais ça n'est là pour le coup que la continuité de ce qui se passe depuis notamment le développement du web. Mais on communique énormément à distance aujourd'hui, on communique beaucoup par l'écrit ou par l'oral, hein, mais demain avec de la synthèse vocale on a exactement la même chose. Et donc voilà, donc c'est un peu étrange de se dire que peut-être qu'on est, on entre dans un monde dans lequel eh bien, potentiellement, on peut communiquer avec des machines ou des hommes sans le savoir, et avec du coup des énoncés mensongers, enfin voilà, produits artificiels qui sont produits automatiquement.
Et bah super, on sort bien en forme là de cette émission.
non, mais voilà. En tout cas, le but, à mon avis, c'est de se poser la question.
Ah, mais vu qu'on est trop déprimé, moi, j'ai plus envie de faire d'autres émissions. Donc, comme on disait, on va les faire rédiger par ChatGPT. Comme ça, on s'emmerde plus. Et puis voilà, on fait comme ça.
Bah écoute, on a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Donc, on espère que vous avez apprécié. Parce que, effectivement, Brian nous a dit dès que vous commencez à être un peu moins bon, là, je vous remplace direct. Donc, voilà. Donc, soutenez-nous. On est peut-être. C'est peut-être nos dernières secondes de radio.
Allez, merci beaucoup d'avoir écouté. Vous pouvez retrouver l'émission, comme d'habitude, en podcast sur radio.picassoff.net. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine. Salut tout le monde.